Vincent.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Amélie Beaucourt.
Bonjour, ravie de vous retrouver dans 7 milliards de voisins. Pour la dernière émission de la semaine, nous allons parler adoption internationale. Deux chiffres d'abord. En 2004, 45 500 enfants étaient adoptés à l'étranger. En 2019, il n'était plus que 6 500. Un chiffre qui s'explique par plusieurs facteurs. Des scandales, évidemment, d'enfants volés ou d'associations peu scrupuleuses. Des législations nationales de plus en plus strictes aussi. Et puis des avancées scientifiques liées aux naissances. Mais que comprend derrière cette diminution drastique, quel impact pour les enfants, les orphelinats et pour les couples qui souhaitent adopter? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Avec nous, Anne Royal, présidente de l'association Enfance et Famille d'Adoption. Et depuis l'Arizona aux États-Unis, Sébastien Roux, sociologue au CNRS et auteur de Sang d'encre, enquête sur la fin de l'adoption internationale aux éditions Vendémiaire. Nous parlerons également de la procédure d'adoption internationale avec le témoignage de deux jeunes parents qui raconteront au micro de Margot Emmerich l'arrivée dans leur famille de leur fils Paul, né en Haïti. Et nous évoquerons également la réforme de l'adoption en France qui a été votée à l'Assemblée nationale en début de semaine. Si vous souhaitez réagir au débat, appelez-nous ou laissez-nous vos messages vocaux sur le compte WhatsApp de l'émission au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Bonjour Anne Royal.
Bonjour.
Et bonjour Sébastien Roux.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, j'aimerais faire un petit état des lieux de l'adoption internationale aujourd'hui. Sébastien Roux, vous avez mené l'enquête pendant 10 ans pour comprendre les raisons de ce déclin et on va les parcourir tout au long de l'émission. Mais avant ça, est-ce que vous pourriez nous dire, à l'échelle mondiale, quels sont les pays qui adoptent le plus aujourd'hui et quels sont les pays d'où sont originaires la majorité des enfants?
Alors, au niveau international, si vous voulez, les pays qui adoptent le plus, historiquement, ça a toujours été les États-Unis, le premier pays adoptant au monde. Et après, vous avez un certain nombre de pays européens. La France, alors ça peut varier hein, en fonction un peu des années, en fonction des situations, mais la France se classe habituellement dans les 3 ou 4 principaux pays adoptants. Avec l'Espagne, enfin encore une fois, ça dépend un peu, mais vous avez en gros les États-Unis et après l'Europe occidentale. Du côté des pays où l'on adopte, là, c'est également assez variable. Et il peut y avoir des pays où on va beaucoup adopter pendant quelques années avant que le processus, le dispositif se décale vers d'autres espaces. Parmi les principaux pays où l'on a adopté dans l'histoire, vous trouvez des pays comme le Brésil, la Corée du Sud, qui a longtemps été un pays important pour l'adoption internationale. Plus récemment, vous avez la Chine, l'Éthiopie ou Haïti. Encore une fois, c'est des tendances et c'est des dynamiques qui sont relativement variables et qui peuvent évoluer, même si certains pays restent importants dans la hiérarchie internationale de l'adoption.
Dire que l'adoption, elle se fait dans le sens des pays riches qui vont adopter dans les pays pauvres, est-ce que c'était vrai avant? Est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? Ou est-ce que tout ça, c'est complètement faux?
Alors, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni vrai ni faux. Il y a effectivement un sens de l'adoption. On adopte principalement des enfants du Sud pour aller vers les pays du Nord. Mais réduire l'adoption à simplement une question d'inégalité économique entre des pays occidentaux et des pays non occidentaux, c'est réducteur. Encore une fois, par exemple, aujourd'hui, parmi les pays où l'on adopte beaucoup, vous avez des pays comme la Russie ou la Chine, voire la Bulgarie, qui est un pays de l'Union européenne, qui ne sont pas des pays pauvres. Donc, en fait, il ne faut pas renvoyer l'adoption internationale à simplement, si vous voulez, une transaction ou une circulation des enfants des espaces défavorisés vers les espaces plus favorisés. C'est plus compliqué, même si vous avez tout de même des relations de pouvoir qui organisent les circulations internationales d'enfants.
Un enfant adoptable, on trouve souvent ce terme quand on fait des recherches sur l'adoption internationale ou nationale d'ailleurs. Un enfant adoptable, qu'est-ce que ça veut dire, Anne Royal?
Alors, un enfant adoptable, c'est avant tout un enfant qui est adoptable de façon juridique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de famille en capacité de le prendre en charge et toutes les solutions possibles au sein de la famille élargie, par exemple, ont pu être explorées, on va dire. Un enfant adoptable, c'est aussi un enfant qui est adoptable psychiquement. C'est-à-dire qu'il peut être adoptable juridiquement, mais compte tenu de son parcours, de son vécu, de ses difficultés, il peut ne pas être adoptable, pour ces raisons.
Ça veut dire qu'on trouve dans les orphelinats, par exemple, des enfants qui n'auront jamais de parents adoptifs, ou pas pour
Oui,
l'instant.
il y a aussi des enfants qui ne désirent pas être adoptés. Je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la parole de l'enfant, c'est normal. Et il y a des enfants qui ne souhaitent pas avoir une nouvelle famille.
Il y a un âge auquel ils peuvent justement signifier ce non-désir d'adoption?
Alors ça, c'est très variable selon les pays d'origine, en fait, hein. Vous avez des pays qui prennent en compte vraiment la parole de l'enfant, d'autres beaucoup moins. Il n'y a pas d'âge précis. On parle souvent, on entend souvent parler d'âge de discernement, mais qui est très variable d'un enfant à un autre et tout dépend aussi des législations de chaque pays d'origine.
Alors, vous êtes présidente de l'association Enfance et Familles d'Adoption. Quel est le rôle de votre organisme dans tout ce circuit de l'adoption à l'international?
Alors, Enfance et Familles d'Adoption, c'est une fédération, hein, d'associations départementales. Qui regroupe des familles adoptives et des adoptés majeurs. Le sens des mots, hein, de notre association, c'est enfance d'abord, ensuite famille et ensuite adoption. On est vraiment positionné, c'est un mouvement qui est tourné vers l'enfance et vers l'enfance délaissée en particulier. Donc au niveau international comme au niveau national, on effectue, on fait beaucoup d'accompagnement, accompagnement des candidats à l'adoption, accompagnement des familles, aussi d'adoptés majeurs. Notre rôle n'est pas différent que ce soit au niveau national ou international. On est aussi un petit peu des lanceurs d'alerte quand les familles nous signalent des difficultés. On va interpeller les pouvoirs publics. On l'a fait par le passé à plusieurs reprises, quand il y avait des difficultés qui étaient pointées avec certains pays d'origine.
Vous leur permettez de faire le lien et d'avoir un accès peut-être plus facile et un appui, un soutien avec les autorités, c'est ça?
Non, on ne fait pas du tout de lien avec les autorités, on n'est pas du tout intermédiaire en adoption, on n'intervient pas dans le processus, si vous voulez, hein.
Donc je parlais d'un soutien moral et peut-être juridique si elle se retrouve en difficulté, des
Ah
conseils.
oui. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Le soutien moral est important, le soutien juridique quand il est parfois nécessaire, malheureusement. Oui, bien sûr, on fait ce genre de choses.
Alors, on va se pencher sur la procédure d'adoption internationale. Et pour ça, on va écouter le témoignage d'un couple, Estelle et Sébastien, qui ont respectivement 45 et 50 ans. Ils ont adopté un petit garçon en Haïti il y a 3 ans. Leur fils, Paul, a aujourd'hui 7 ans et demi. Et tous les trois vivent en banlieue pavillonnaire lyonnaise, à Mions. Estelle et Sébastien se sont tournés vers l'adoption car Estelle ne pouvait pas avoir d'enfant de façon biologique. Et à leur âge, il était plus compliqué d'adopter une pupille de l'État. Une fois leur agrément en poche en 2013, on reviendra sur ce que ça veut dire un petit peu plus tard, et sans critères quant au sexe, la couleur de peau ou l'origine, comme ils le racontent, ils se sont tournés vers différentes structures dans le Rhône. C'est ce qu'on appelle les OAA, les organismes autorisés pour l'adoption. Et finalement, leur dossier a été accepté par COFA Lyon, qui travaille en collaboration avec Haïti et la Colombie. Ils racontent ce long parcours de 7 ans et leur nouvelle vie à trois au micro de Margot Emmerich.
Au moment où nous, notre dossier a été sélectionné, après plusieurs entretiens, effectivement, tout est long finalement, il faut beaucoup de patience. Mais après, il y a des étapes qui font qu'on. Moi, je voyais ça comme un escalier et on montait des marches au fur et à mesure. Donc, en fait, quand COFA nous a écrit en nous disant écoutez, on vous propose un entretien, donc on a eu un premier entretien, on savait effectivement là qu'on se destinait vers la Colombie ou Haïti, si toutefois ils nous sélectionnaient. Voilà, le mot sélection est peut-être un peu difficile. Après, quand on est dans cette situation, situation-là, ben voilà, dans ces cas-là, on a envie de se battre. Et puis, il faut savoir aussi que l'adoption, ça peut être des étapes par la suite compliquées où on ne sait pas ce que l'avenir nous réservera. Et ça permet aussi d'être mieux préparé, parce qu'on a aussi des formations. Quelque chose de tout bête, mais nous qui avons adopté en Haïti, ben, d'avoir un enfant qui n'est pas de la même couleur que nous du jour au lendemain, il faut que ça soit quelque chose de naturel pour soi et que ça ne soit pas quelque chose de compliqué pour les parents une fois que l'enfant est là. Et donc, au bout de, je ne sais pas, de peut-être une petite année, donc, nous avons eu la confirmation que l'OAA nous sélectionnait. Et à partir de là, en fait, notre dossier est parti en Haïti. Et puis bah, là commence une nouvelle attente pour un apparentement.
Pendant 2 ans, on vous dit, on peut vous appeler dans 15 jours. Il faut gérer cette attente. Mais quand ça vous arrive, vous dites, bah, de toute façon, vous devez partir dans la semaine. Hein, donc, vous n'êtes pas prêt, parce que par définition, ça fait 2 ans, vous dites, dans 15 jours, potentiellement, je peux partir. Donc, vous n'êtes pas prêt. Mais factuellement, vous prenez l'avion dans 15 jours, 3 semaines pour partir. Ouais, 10 jours.
Moi, j'ai le souvenir de l'appel magique, hein, ce qu'on appelle l'appel magique dans le monde de l'adoption, souvent. Et forcément, c'est l'euphorie, hein, c'est évident. On nous présente rapidement, en fait, l'âge de l'enfant. Et puis, on nous dit, ben, on vous attend demain pour vous présenter le dossier un peu plus complet et vous donner plus d'informations. Et puis, à savoir si vous acceptez ou pas cet enfant. Parce que, voilà, on a encore la possibilité de refuser. C'est une rencontre qu'on attend depuis des années, qu'on a imaginée, mais finalement, ça ne se passe jamais comme on l'a imaginé. C'était encore mieux, j'ai envie de dire. Même si, effectivement, on s'attend à avoir un petit enfant qui vous saute dans les bras et ça ne se passe pas du tout comme ça, parce que, bien sûr, pour lui, on est des personnes totalement étrangères, pas de la même couleur, qui ne parlent pas sa langue. Ça, c'est la première étape. Ça s'appelle donc le voyage de socialisation pour faire connaissance avec son enfant. C'est le process haïtien qui veut ça, hein, voilà. En attendant de retourner le chercher, mais le process administratif qui sépare ces deux voyages peut prendre jusqu'à 1 an, voire plus, hein, pour certaines familles. Pour nous, ça a été relativement, on va dire, court. Alors, ça peut faire bondir certaines personnes, mais nous, ça a pris 10 mois.
On ne l'a pas toujours dit, soyons très clairs, hein, que les 7 ans étaient nécessaires, que ce n'était pas long, d'accord. Mais aujourd'hui, le fait que même dans le deuxième retour, on doive encore passer du temps dans l'orphelinat, ça a permis de mieux comprendre, de mieux découvrir le pays. Alors, on n'est pas des spécialistes d'Haïti, hein, faut être clair. Mais aujourd'hui, on est capable de lui en parler.
Hein ? Ça, c'est important.
Clairement, vous avez envie de lui permettre de garder ses racines. Enfin, je ne sais même pas comment le dire. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a sa propre personnalité influencée par son pays de naissance. Et ça, quand Paul, par exemple, aujourd'hui rigole, parce qu'il rigole fort, voilà, on ne peut pas s'empêcher de penser à son origine. Et j'espère qu'il ne le perdra jamais.
Paul a 7 ans et demi aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'il est avec nous. Et c'est vrai qu'il est en CE1. Les questions commencent à arriver, en fait. Vraiment, voilà. Alors, je pense qu'il était conscient de la différence de couleur, le fait de, voilà, je ne l'ai pas porté dans mon ventre, hein, tout simplement. Mais, puisque ça, on en parle avec lui depuis qu'il est ici, et puis bon, il était en âge d'entendre ces choses-là. En revanche, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions suite aux interrogations de ses petits copains et petits camarades, en fait, à l'école. Hein. Pour lui, c'est peut-être pas toujours facile d'en parler, mais quand il pose des questions, on y répond de façon tout à fait naturelle et sans tabou.
Malgré tout, est-ce que vous craignez qu'il puisse être un jour, justement, discriminé pour sa couleur de peau ?
Il le sera. Après, on va essayer de le rendre le plus heureux possible, le plus près possible à ce genre de remarques, le plus ouvert, le plus flexible, le plus aimant. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que même inconsciemment, on ne le stigmatise pas. Et les gens autour de nous ne le stigmatisent pas. Ce n'est pas l'adopter. Et ça, c'est notre ligne de conduite, même inconsciente, qu'on s'est donné, de dire Paul est un petit garçon normal avec ses différences, encore une fois, sans aucune, je pense, naïveté. Voilà.
Estelle et Sébastien au micro de Margot Emmerich. Alors si ce couple a réussi à accueillir Paul, c'est parce qu'ils ont obtenu un agrément. Sébastien Roux, comment elle se passe, cette demande d'agrément et cet accord d'agrément ?
Alors en fait, l'agrément, c'est une sorte, si vous voulez, d'autorisation administrative à adopter et qui est décernée par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, alors qui est signée par le président du conseil général, mais qui en fait après une enquête qui est conduite par les services de l'aide sociale à l'enfance et qui est nécessaire, que ce soit pour l'adoption nationale ou pour l'adoption internationale. elle est en place, cette procédure administrative, depuis le milieu des années 80, à peu près. Et en fait, ce temps donc, a duré à peu près 9 mois. Hein, vous vous présentez, vous demandez au service d'aide sociale de l'enfance, vous expliquez votre intérêt pour l'adoption, vous avez un certain nombre de réunions, et puis après il y a une enquête qui est conduite, qui est à la fois une enquête sociale et à la fois une enquête psychologique, et puis vous avez une réponse au bout de 9 mois suite aux entretiens et aux interviews que vous avez avec les professionnels. Cet agrément, si vous voulez, il sert d'une part effectivement d'autorisation administrative, mais il sert exactement à ce dont le couple a témoigné lors du reportage, c'est-à-dire c'est une première aussi étape de préparation. Dans ce temps d'agrément, effectivement, vous avez une sélection, hein, donc vous avez des personnes qui sont reçues et des personnes qui sont refusées, mais c'est aussi un temps d'apprentissage. Parce que c'est un long processus, hein, je trouve le reportage vraiment très significatif, c'est un long processus d'apprentissage, de socialisation, de compréhension aussi de ce que veut dire aujourd'hui d'adopter. Et ce long temps d'avant l'arrivée de l'enfant, il démarre dès le moment de la candidature pour l'agrément.
Est-ce que cet agrément a une date de péremption, entre guillemets, et est-ce qu'il est différent, est-ce qu'il y a un critère différent quand on s'adresse à l'adoption internationale ou à l'adoption nationale ?
Alors, il n'y a pas nécessairement de critères différents. En fait, on va demander, lors du processus d'agrément, enfin, les travailleurs impliqués vont demander aux parents candidats de préciser leur projet. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à présenter, parce que des fois, en fait, les informations ne sont pas si évidentes. Donc, présenter aux candidats les possibilités et leur demander progressivement et les accompagner. Hein, et notamment, alors, avec les travailleurs, mais aussi avec des associations FAO, de préciser leur projet. Et donc, c'est un peu, si vous voulez, dans ce temps d'agrément qu'il y a une détermination de la voie, du chemin que les candidats vont choisir d'emprunter. L'agrément, au plan administratif, il sera valable 5 ans, mais il est renouvelable. Parce que souvent les délais d'adoption sont longs et en fait là, il est souvent nécessaire d'en obtenir un second et vous repassez par les mêmes processus d'évaluation, de sélection et d'accompagnement.
Parce que le projet a peut-être changé et puis que les futurs parents vieillissent aussi, évoluent. Donc c'est l'occasion de faire un point avec ces services, je suppose. Dans votre livre, il y a quelque chose qui ressort aussi. Là, le petit garçon dont on a parlé, Paul, il avait 4 ou 5 ans quand il a été adopté. Mais maintenant, les enfants adoptables ont un profil qui est différent des enfants adoptables d'il y a 20 ans. En quoi est-ce qu'ils ont changé ?
Alors, ils n'ont pas nécessairement... En fait, c'est un peu compliqué dans l'adoption parce que vous avez énormément de cas différents et encore une fois, ça évolue. Ce qui arrive récemment, c'est avec la diminution assez drastique, hein, à peu près 90% en 10 ans de diminution de l'adoption, effectivement, le profil majoritaire des enfants a évolué. Et aujourd'hui, la majorité des enfants qui sont adoptés à l'international par des parents en France sont ce qu'on appelle des enfants à besoins spécifiques, ou EBS. Alors, c'est une catégorie un peu clinique, donc l'appellation est un peu désagréable pour beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? C'est une catégorie qui réunit 3 caractéristiques. C'est l'âge, donc ce serait des enfants qui ont le plus souvent plus de 5 ans. Vous êtes également un EBS lorsque vous avez une pathologie, alors qui est curable ou non curable, mais en tout cas qui a été diagnostiquée et qui implique un traitement ou un accompagnement spécifique. Et vous êtes également considéré comme étant un EBS si vous êtes pris dans une fratrie, donc avec des frères et des sœurs. Alors pourquoi cette catégorie et qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est pas des enfants qui sont nécessairement un problème ou autre. Hein. C'est simplement que ça nécessite pour les parents candidats à l'adoption, peut-être une préparation supplémentaire, peut-être une anticipation un peu différente et un apprentissage un peu plus spécialisé, puisque ce sont aussi des enfants dont on pense ou on présuppose, qu'on perçoit comme étant potentiellement un peu plus à risque. Alors, à risque de rejet de l'adoption ou à risque dans le sens... c'est un peu le souci de tout le monde, si vous voulez, hein, que ça se passe bien, que les enfants soient intégrés, qu'ils soient heureux, qu'ils aient trouvé un foyer qui ne les réabandonne pas une seconde fois. Et donc, il y a cette idée de, avec les enfants qu'on appelle à besoins spécifiques, bah justement, parce qu'ils ont des besoins spécifiques, d'être un peu plus en capacité de les accompagner dans leur arrivée.
Anne Royal, est-ce que ça pourrait expliquer ça, la réticence de certaines familles à se porter candidate à l'adoption? Le fait que le profil des enfants, enfin que ces enfants aient des besoins spécifiques, justement.
Oui, bien sûr, les familles cheminent vers un projet, mais en fonction de leurs limites. Et je crois qu'il faut qu'elles soient tout à fait conscientes de ces limites, qu'elles puissent les travailler dans le cadre de l'évaluation concernant l'agrément pour adopter. Parce que, si on s'est bien aperçu qu'en allant au-delà de ces limites, c'était prendre un risque pour l'enfant, hein, déjà en premier, et pour la famille. Donc, tous les parents n'ont pas la compétence parentale pour accueillir un enfant qui peut avoir 8 ans, 10 ans, pour accueillir une fratrie de 3. Les compétences à mobiliser sont différentes que pour l'accueil d'un bébé, par exemple.
Combien de familles aujourd'hui en France disposent de cet agrément dont on parlait ?
Alors, les chiffres officiels, ce sont les derniers chiffres de l'ONPE, donc qui sont au 31 décembre 2019. Je crois que c'est un tout petit peu plus de 10 000 agréments en cours de validité.
Ça veut dire qu'il y a potentiellement 10 000 familles qui vont adopter un enfant bientôt ou toutes ne vont pas adopter ?
Alors, toutes ne vont pas adopter, puisque, les chiffres de 2019, je crois que c'était 421 adoptions internationales à peu près entre 600 et 800 adoptions nationales. Donc, bien sûr, toutes les familles ne pourront pas adopter, ça c'est certain. Et dans nos associations départementales, on accompagne aussi au renoncement d'un projet. D'un projet qui ne sera pas réalisable.
On l'a entendu, Anne Royal, dans le témoignage d'Estelle et Sébastien. Les parents ont tenu à faire connaître à leur enfant son pays d'origine. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez justement aux parents de garder un lien avec le pays de naissance de leur enfant d'adoption ? Est-ce que c'est important ?
Bien sûr, c'est important. Après, quel lien on va garder ? Est-ce que c'est de suivre l'actualité du pays ? Est-ce que c'est de se plonger dans la culture de ce pays qu'on connaît peu, en fait ? Est-ce que l'enfant souhaite garder un lien ? Il faut en tenir compte. Quelquefois, l'enfant, surtout quand il arrive, il est dans une phase de suradaptation et dans un premier temps, il va ne plus vouloir entendre parler, par exemple, de son pays d'origine. Ça viendra peut-être après, hein, les questions, la curiosité viendra peut-être après, mais il faut pas imposer à un enfant un lien avec son pays d'origine s'il ne le souhaite pas. Le lien, c'est aussi un lien de cœur, parce que c'est quand même le pays qui a permis à la famille de se fonder. Donc, il y a toujours un lien privilégié, effectivement, avec ce pays.
On va poursuivre notre discussion dans quelques instants, mais avant, on écoute Bagarré de Youssoupha sur RFI.
Ma chérie, on s'est bagarré, puis on a fait l'amour pareil. C'est ton corps qui m'a contrôlé, c'est ton cœur qui m'a consolé. Deux, c'est un monde parallèle. Nous séparer, c'est pas la peine. Avec toi, on s'est grave marave. Et juste après, c'est carnaval. Hey. Ce soir, on se bagarre. Plus tard, faudra se pardonner. Ce soir, on se bagarre. Plus tard, faudra se pardonner. Famille, on s'est bagarré. Comment ça, je vais pas me marier? J'attends pas votre permission pour vos histoires de religion. Elle, c'est la femme de ma vie. C'est elle qui portera ma fille. Rien à foutre de votre avis. Et tant pis si ça part en vrille. Hey. Ce soir, on se bagarre. Plus tard, faudra se pardonner. soir on se bagarre, plus tard faudra se pardonner. Ma fille, on va se bagarrer. Si un jour tu veux pas me parler, je serai fier de ton parcours. On va s'embrouiller par amour. Hey. C'est normal quand tu seras grande. C'est toi qui voudras tout m'apprendre. Mais avant de te dire pardon, je vais te montrer c'est qui le daron. Moi. Ce soir on se bagarre, plus tard faudra se pardonner. Ce soir on se bagarre, plus tard faudra se pardonner. Ce soir on se bagarre, plus tard faudra se pardonner. Ce soir on se bagarre, plus tard faudra se pardonner.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI avec une émission consacrée aujourd'hui à la fin de l'adoption internationale ou à son déclin. Avec nous, Anne Royal, présidente de l'association Enfance et Famille d'Adoption et depuis l'Arizona aux États-Unis, Sébastien Roux, sociologue et auteur de Sang d'encre, enquête sur la fin de l'adoption internationale aux éditions Vendémiaire. Alors il y a un texte aussi qui légifère depuis 1993 sur cette adoption internationale, c'est la Convention de la Haye. Sébastien Roux, dans les grandes lignes, cette convention, qu'est-ce qu'elle va changer à l'adoption internationale lorsqu'elle est écrite ?
Alors, la convention de la Haye, si vous voulez, c'est un aboutissement d'années de réflexion sur les besoins de l'enfant et la protection juridique des enfants à l'international, et en fait, qui a été rédigée en 93 et que la France a signée en 95. Est ratifié en 98. Donc c'est une convention internationale, c'est un traité, et ce sont les États qui décident ou pas d'en être partie. Aujourd'hui, les principaux acteurs de l'adoption internationale en sont membres. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez encore quelques pays, comme la Russie par exemple, qui l'ont signé mais pas ratifié. Mais en tout cas, les principaux acteurs en sont membres. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique un certain nombre de mesures qui sont perçues comme étant des garanties quant à la dimension éthique de l'adoption internationale, notamment de vérifier l'adoptabilité des enfants, c'est-à-dire un certain nombre de processus qui visent à s'assurer que l'enfant n'a plus de parents dans son pays d'origine et que les démarches nécessaires ont bien été effectuées pour s'assurer de sa situation. Et puis c'est aussi d'avoir vérifié qu'il n'y avait pas potentiellement de possibilité d'adoption nationale dans son État avant, en dernier recours, de le proposer potentiellement pour adoption à l'international. C'est partie des principales mesures. Et après, la Convention de la Haye impose aussi un certain nombre d'opérateurs, de régulateurs, avec des représentants par État qui visent en fait à s'assurer que les intermédiaires du monde adoptif ne font pas des bénéfices, ne sont pas pris dans des logiques de trafic, etc., etc. Donc de s'assurer de la dimension éthique, à nouveau, des principaux opérateurs du monde adoptif.
Elle renforce aussi, je crois, le rôle de l'État en tant qu'acteur là-dedans. Est-ce que ça, c'est problématique ? Ou est-ce que c'est une garantie de protection ?
Alors, ça, je ne sais pas si c'est problématique en soi. En fait, si vous voulez, ça garantit le rôle de l'État. Pourquoi ? Parce que c'est un État qui signe la Convention de la Haye. Et c'est l'État qui est en charge de le faire appliquer sur son territoire. Donc en fait, il y a dans la Convention l'exigence que l'État désigne ce qu'on appelle une autorité centrale c'est-à-dire un corps qui soit en charge de faire respecter les principes de la Convention de la Haye dans l'État et de les mettre en application. En France, c'est un service qui est du ministère des Affaires étrangères qui est en charge de cette politique-là. Est-ce que c'est problématique ou pas problématique ? C'est une question compliquée. En fait, aujourd'hui, pour les acteurs du monde de l'adoption, la Convention de la Haye est indéniablement un progrès. C'est-à-dire que c'est une convention qui est acceptée, qui est promue, qui est reconnue comme étant l'un des principaux outils de protection de l'enfant. Donc, si vous voulez, elle n'est pas du tout mise en question, refusée, ou au contraire, hein, y a vraiment ce mouvement international pour son adoption et sa mise en place qui fait quasiment consensus. Potentiellement, est-ce que c'est un progrès ou pas un progrès ? Ça dépend, en fait, si on s'accorde sur les principes qui sont défendus par la Convention de la Haye. Moi, ce que j'essaye de réfléchir un peu dans mon livre et de proposer, c'est est-ce que derrière les principes éthiques qui encadrent la circulation internationale des enfants, il n'y a pas aussi des dimensions politiques qu'on peut interroger ou autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause la Convention de la Haye, ça veut simplement dire de poser la question de quelles sont les conséquences politiques des principes éthiques qui sont mis en place par la Convention.
Et puis vous parliez du progrès que représente la Convention de la Haye, mais vous avez dit aussi, je crois, tout à l'heure, que la Russie ne l'avait pas ratifiée, mais que la Russie était un pays d'où provenaient beaucoup d'enfants qui étaient proposés à l'adoption internationale. Ça veut dire qu'on peut continuer à adopter dans un pays qui n'a pas ratifié cette convention. Ça veut dire qu'on tolère le fait que la Russie ne souhaite pas se soumettre à cette convention.
Oui, mais alors il faut. Enfin, alors la Convention de la Haye existe, mais il ne faut pas non plus partir du principe que lorsqu'un pays n'est pas membre de la Convention de la Haye, les pratiques qui s'y déroulent seraient non éthiques. Hein, c'est pas mécanique. Par exemple, pendant très longtemps, l'Éthiopie a été un pays important pour l'adoption. L'Éthiopie n'avait pas signé la Convention de la Haye parce que pour le gouvernement éthiopien, c'était une convention qui allait à l'encontre de sa souveraineté. Pour autant, même s'il y a eu des situations potentiellement problématiques en Éthiopie, on ne peut pas dire que tous les enfants adoptés en Éthiopie relèveraient de circuits non éthiques ou de problèmes de trafic ou autre. Donc la Convention de la Haye, c'est un outil. C'est un outil qui fait consensus aujourd'hui dans le monde de l'adoption comme étant un outil qui permet d'assurer un certain nombre de principes juridiques. Pour autant, effectivement, vous avez des pays qui n'en sont pas membres. Il y a d'autres procédures qui sont en place dans ces espaces-là. Certaines sont éthiques, certaines ne le sont pas, mais c'est au cas par cas.
Anne Royal, ce texte, cette convention de la Haye, pour vous, est-ce qu'elle est suffisante pour protéger les enfants et les familles ?
Suffisante, non, pas toujours, hein, parce que entre le fait de ratifier une convention et le fait de mettre en place dans un pays des mesures de protection de l'enfant, de s'assurer que le principe de subsidiarité a bien été respecté, de s'assurer que l'état civil de l'enfant n'est pas est bien exact. Ce qui est bon quand on connaît dans certains pays les difficultés au niveau administratif, hein, de création d'état civil, c'est parfois compliqué. Donc non, c'est pas forcément une assurance à 100%.
Alors, lorsqu'on parle d'adoption, on a bien souvent en tête les différents scandales qui ont émaillé le secteur. On se souvient des Réunionnais de la Creuse en France ou encore du scandale de l'Arche de Zoé. Récemment, une autre association a été vouée aux gémonies, c'est l'association Rayon de Soleil pour l'enfant étranger. Je vous propose d'écouter un extrait de témoignage recueilli par nos confrères de Combini dans une vidéo qui a fait le tour de la toile. On y entend Jean-Noël, adopté au Mali lorsqu'il était enfant. On y entend aussi sa mère adoptive et sa mère biologique, une famille qui a appris en tombant sur un reportage à la télé qu'elle avait été trompée.
J'ai vu ma mère biologique dans cette interview. J'ai aperçu ma mère biologique là-dedans, quoi.
Elle m'a dit qu'elle partait avec mes enfants pour les confier à des Blancs qui ne peuvent pas en avoir. Et elle m'a dit que tous les 5 ans, ils viendraient nous rendre visite.
Et à 18 ans, ils devaient revenir après ?
Oui, ils devaient revenir.
Mon mari et moi-même, on s'est regardés, on a dit, mais alors on les a volés. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Bien sûr, nous avons appelé l'association. Et il a été répondu, oui, non, en fait, les familles biologiques savaient, mais au mieux, elles se trompent, quoi.
Il y a à peu près une quinzaine d'années, lorsque j'ai atterri donc, à Bamako et lorsque j'ai retrouvé mes parents, je me suis dit, enfin, je vais retrouver une vraie vie, une vraie histoire. Je ne vais plus être un fantôme, j'allais vraiment être quelqu'un.
J'ai pu entrer en contact avec les parents de Jean-Noël et Pierre-Yves, quasiment 30 ans plus tard. Bah, d'entendre des parents vous dire « mes enfants m'ont manqué », c'est affreux. Enfin, nous, évidemment, dans l'autre sens, ben voilà, nous étions avec des enfants, nous étions heureux. Enfin, le décalage, là, c'est terrible.
Anne Royal, quand on entend ça, et je suppose que vous avez des interrogations de parents qui vont dans ce sens, comment est-ce qu'on fait pour être sûr que l'enfant qu'on va adopter ne provient pas d'un circuit illégal?
Alors, c'est difficile d'être sûr à 100%. C'est vrai que le dossier qui est fourni aux parents, le dossier sur l'enfant, hein, qui est fourni, les documents officiels, ils peuvent s'avérer faux. Là, dans ces situations-là, c'est très douloureux, c'est un fracas, hein. Tout le monde est victime là, dans un, une histoire comme ça. C'est très culpabilisant pour les parents parce que ils se disent qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas remarqué. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait la confiance. La confiance dans les institutions, dans les associations qui accompagnaient ces adoptions. C'est un vrai traumatisme pour tous.
Sébastien Roux, les associations que vous avez pu fréquenter justement pendant vos 10 années d'enquête, comment est-ce qu'elles sont contrôlées?
En fait, si vous voulez, de quelles associations on parle? En France ou à l'étranger?
À l'étranger. En France aussi, ça peut être intéressant de se pencher sur cette question du contrôle des associations qui gèrent ça.
Alors, rappelez deux secondes la procédure, comme ça les auditeurs comprendront un peu plus de quelles associations on parle. En fait.
Allez-y.
En France, lorsque vous avez l'agrément, vous avez deux possibilités une fois que vous êtes agréé. C'est soit de partir dans ce qu'on appelle une démarche individuelle, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de passer par un opérateur, vous vous rendez seul dans un pays qui n'est pas pour le coup membre de la Convention de la Haye et qui accepte les démarches individuelles, ou alors vous vous tournez vers un opérateur. Un opérateur éthique qui sera certifié comme tel, et ce qui est encore une fois une des conditions imposées par les pays membres de la Convention de la Haye. En France, les opérateurs éthiques sont de deux types. Vous avez des opérateurs éthiques privés, qui sont des associations de droit privé, qu'on appelle des OAA, organismes autorisés pour l'adoption, ou vous avez un opérateur public qui s'appelle l'AFA, l'Agence française de l'adoption. Donc, ces opérateurs, et vous mentionnez l'opérateur dont on a découvert qu'il avait effectivement des malversations, sont contrôlés, en fait, parce qu'ils sont reconnus comme opérateurs éthiques en France, donc sont contrôlés par l'autorité centrale de la France, puisque la France est signataire de la Convention de la Haye. D'accord. Donc, ces opérateurs sont contrôlés, on vérifie, il y a régulièrement des rapports d'activité. Le plus souvent, ce sont en fait des anciens, même parents adoptifs qui étaient engagés, qui ont créé des liens, etc., et qui ont voulu faciliter et aider le monde de l'adoption. Et dans la très grande majorité des cas, il n'y a absolument aucune situation d'enrichissement. C'est plutôt des bénévoles, c'est des gens qui passent beaucoup de temps et qui essayent de tisser des liens et qui n'ont pas nécessairement un intérêt particulier à faire des chiffres hein, adoptifs. C'est plutôt des gens qui ont consacré encore une fois du temps et de l'énergie pour faciliter une démarche dont eux-mêmes ont pu bénéficier pendant un temps. Dans les pays qu'on appelle des pays d'origine ou les pays d'où sont originaires les enfants, et ben là, vous avez toutes les associations ou tous les opérateurs qui sont potentiellement intéressés par cette activité. Et ce qui est valable pour la France n'est pas valable pour les autres pays. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous pouvez très bien avoir en Inde des opérateurs ou des associations qui travaillent pour des groupes américains, états-uniens, et qui seraient, par exemple, c'est assez fréquent, hein, des associations chrétiennes engagées pour des questions religieuses, etc., etc. Donc, vous avez, si vous voulez, un peu tout et n'importe quoi. C'est le monde associatif, etc.
Des intérêts
divergents.
Donc, il n'y
a pas de contrôle. avec des intérêts divergents, avec des conceptions divergentes, avec pour certains une vision très humanitaire de ce que doit être l'adoption, avec pour d'autres une vision très religieuse. Ça dépend, si vous voulez, des personnes qui s'investissent dans ces activités. Et c'est bien un peu le problème, c'est-à-dire il y a tellement d'opérateurs différents qu'il faudrait surtout pas commencer à dire tous les membres, tous les gens qui s'investissent dans le monde adoptif c'est des pourris, c'est du trafic, etc. C'est complètement faux. Vous avez des opérateurs très divers, avec des principes souvent parfois opposés entre des laïcs, des religieux, des privés, des publics. Et donc, ce qui rend le monde de l'adoption très complexe et qui effectivement permet aussi, comme il y a cette diversité, qu'il y a certainement eu, et il y a eu hein, des abus, des problèmes, des opérateurs qui, ou des acteurs qui se sont engagés dans une voie plus criminelle.
Anne Royal, d'un point de vue des parents exclusivement, est-ce que ces affaires, ces scandales ont changé la donne, ont dissuadé certains couples d'adopter ou de mettre leur enfant à l'adoption ?
Dissuader peut-être pas, parce que, bon, par contre, je pense que les parents qui adoptent aujourd'hui vont être plus vigilants.
Le ministre des Solidarités et de la Santé, Adrien Taquet, a annoncé la tenue d'une commission d'enquête sur les adoptions illégales internationales. Est-ce que c'est un premier pas ? Est-ce que c'est suffisant ? Vous attendez plus de sa part ?
C'est un bon début, on va dire. Cette commission d'enquête, on la réclame depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années. Il est nécessaire de rechercher la vérité. Pour en tirer un enseignement et puis pour pouvoir mettre des mots, chercher aussi les responsabilités, où qu'elles soient, responsabilités des États, du secteur associatif, des parents, qu'ils soient d'origine ou adoptifs. C'est important de pouvoir revenir sur le passé pour pouvoir appréhender le présent.
On va parler aussi rapidement cette réforme de l'adoption qui a été votée à l'Assemblée nationale en début de semaine ici en France, qui va passer au Sénat prochainement. Un texte qui se prépare dans les cuisines législatives françaises depuis plusieurs années et qui annonce moderniser le secteur de l'adoption en France en l'ouvrant par exemple aux couples non mariés. Mais ça n'est pas la seule chose que prévoit le texte. Il y a notamment une mesure qui supprime le recueil de consentement des parents de naissance. Anne Royal, est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Alors, c'est quelque chose qui va s'appliquer à l'adoption nationale, en fait. Hein. Donc, peut-être que ce n'est pas le sujet de l'émission, mais la suppression du consentement à l'adoption, c'est le fait qu'actuellement, des parents identifiés, hein, qui sont identifiés, qui demandent l'admission de leur enfant en qualité de pupille de l'État en France, sont actuellement invités également à consentir à son adoption. Et que si cette loi est votée, dans l'état de son projet, les parents ne pourront plus consentir à l'adoption de leur enfant, n'auront plus cette possibilité. Ils seront informés qu'en demandant l'admission de leur enfant comme pupille de l'État, celui-ci pourra faire l'objet d'un projet d'adoption.
Et ce texte, au niveau de la procédure d'adoption internationale ou de l'adoption internationale en général, il va changer quelque chose ?
Non, ça ne va rien changer au niveau de l'adoption internationale. Au niveau de l'adoption internationale, le consentement est nécessaire, c'est le consentement du représentant légal de l'enfant, qui peut être le parent biologique, mais qui peut être aussi le directeur de l'orphelinat ou la personne qui a l'autorité parentale sur l'enfant. Et ce consentement doit être éclairé sur ses conséquences, sur le fait notamment que s'il s'agit d'une adoption plénière, tous les liens juridiques seront rompus entre les parents biologiques et l'enfant.
Merci beaucoup, Anne Royal, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Enfance et Famille d'Adoption. Et merci aussi beaucoup à vous, Sébastien Roux, d'avoir été avec nous depuis les États-Unis. Je rappelle que votre livre « Sans d'encre, enquête sur la fin de l'adoption internationale » est paru aux éditions Vendémiaire. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de se quitter, on écoute « Princess » de Crystal Murray sur RFI. Tuesday morning, everyone's
free, but I'm still grooving. Tuesday morning, can't put my head to sleep. This got me jamming. You know I'll be everything you need. I got secrets that I can't keep. You only call me when you're lonely. This time I'll be the first one to leave. I could be the princess. No, I could be the princess. No, I could be the princess in your life. Watching the sunset, blue sky just for me. Your taste on my lips, wine gets to my head. Quickly, 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 quickly.
De voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Juliette Brault, Delphine de Dianous pour avoir préparé cette émission, à la technique et à la réalisation, Romain Dubrac. Lundi, vous retrouverez Emmanuelle Bastide à ce micro. Elle s'interrogera avec ses invités sur le bilan éducation du président français Emmanuel Macron, piloté par le ministre Jean-Michel Blanquer. Dédoublement des classes de CP et CE1 dans les écoles primaires, réforme des lycées, problèmes liés à Parcoursup. Où en est-on du combat pour l'égalité des chances à l'heure où une partie du corps enseignant est justement en grève. Laissez-nous vos messages dès maintenant sur la page Facebook de 7 milliards si vous voulez vous joindre au débat ou appelez-nous sur le WhatsApp de l'émission. C'est le 33 7 64 45 51 41. Bon week-end à tous et à lundi, même heure. Dans quelques instants, un nouveau journal sur RFI.
Milliards de voisins, c'est fini.
Une semaine d'actualité.